Donc je fais un tour d'horizon simplement du séminaire. Donc je rappelle simplement que la naissance de ce séminaire est liée étroitement à la renaissance, si on peut dire, de l'équipe ESR. Nous étions une équipe intitulée « La société religion », comme je vous disais sur la petite vidéo de présentation du projet de séminaire. Cette équipe a été créée il y a 20 ans, sous le label du professeur moderniste Chantal Grelle, et pendant 20 ans, elle a été centrée plutôt sur les questions de l'histoire culturelle au sens large, autour des notions à la fois de politique, de culture de cour, d'études de la société et de certains phénomènes, notamment la proximité de Port-Royal, déterminée un intérêt pour les questions religieuses. Dans le cadre de la nouvelle politique générale de l'Institut d'études culturelles internationales, qui est centrée de façon explicite sur les questions patrimoniales et sur les à la fois patrimoine matériel, patrimoine immatériel, mais aussi bien sûr sur l'histoire culturelle. Je rappelle que les deux équipes de l'IOCI sont des équipes d'histoire culturelle. Le laboratoire a décidé de changer de nom et de s'intituler désormais DIPAC, donc Dynamique Patrimoine et Culturel, qui est un laboratoire pluridisciplinaire, on l'a vu avec le tour d'horizon des membres qui sont ici présents, donc à la fois des historiens, des littéraires, il y a aussi des spécialistes de langue et civilisation étrangères. Et la dominante que nous voulons donner à partir de la rentrée 2015 à cette équipe, c'est une spécialisation dans l'étude de la culture et du patrimoine. Alors pour la périodisation, mais sur le fond, on a discuté avant la tenue du séminaire, de l'Antiquité jusqu'à la fin de l'époque moderne. On pourrait dire grosso modo jusqu'au seuil de la muséographie moderne, au moment de l'Empire et peut-être les premières années du 19e siècle, à l'époque de la Restauration. Alors, l'équipe, comme le savent la plupart d'entre vous ici présents, est un membre fondateur du LABEX Patrima, LABEX consacré à l'étude du patrimoine matériel qui regroupe un ensemble assez important de partenaires, à la fois dans les institutions patrimoniales comme les archives nationales, comme la Bibliothèque nationale de France ou le Musée du Louvre, mais aussi des laboratoires, comme nous avons ici un représentant, comme le LAPA, donc spécialisé dans laboratoire dit de sciences dures, mais pluridisciplinaire dans leur essence, et spécialisé dans le domaine de l'expertise des matériaux et de l'étude vraiment concrète de l'aspect matériel du patrimoine. Donc la programmation scientifique du laboratoire pour la période 2015-2019 a été structurée autour de trois axes qui ont été définis lors d'une réunion du laboratoire. Donc d'une part, la fabrique du patrimoine, c'est-à-dire comment est-ce que le patrimoine se construit, processus de formation, forme même du patrimoine, objets patrimoniaux dans leur diversité. Donc c'est une notion bien sûr qui nous engage à aller peut-être vers le 19e, un groupe étant donné que la notion de patrimoine est une notion contemporaine, mais elle s'élabore sans le nom bien avant, et c'est un peu cette archéologie de l'idée du patrimoine qui nous intéresse au premier chef. Alors le patrimoine, deuxième axe, c'est la confrontation donc d'un patrimoine à la fois matériel, donc sous les la forme des objets concrets, des collections précisément qui peuvent les réunir, mais aussi patrimoine au sens immatériel. Je pensais, en préparant cette séance, à certains articles de Roger Chartier autour de la lecture, et le phénomène par exemple de la bibliographie, c'est une bibliothèque non matérielle. Une bibliographie, c'est une sorte de bibliothèque idéale que nous avons tous dans nos livres ou à la fin de nos articles, de tous les livres qu'on aimerait bien avoir et qu'on soit forcé d'aller consulter en bibliothèque, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les avoir, ou alors parce qu'ils sont trop chers ou trop anciens, comme la réserve de la Bibliothèque nationale, par exemple. Donc la bibliographie est aussi une forme de patrimoine. Et cette science des sources et cette science des collections en fait partie. Enfin, troisième axe fondamental, la notion de culture, patrimoine et savoir en Europe. Donc là, nous sommes plutôt du côté des usages des patrimoines, d'une certaine manière, usage culturel, usage savant. Qu'est-ce qui a constitué ces patrimoines? Comment font-ils partie des objets culturels parmi d'autres, et comment sont-ils utilisés à usage culturel, à usage politique ou à tout autre usage, à réflexion donc vraiment sur ce qu'est le patrimoine comme objet culturel. Et donc l'idée du séminaire ici, donc, qui est à l'origine un séminaire de laboratoire, est d'être un séminaire transversal sur un des objets qui nous semble réapparaître à chacune des étapes de ces interrogations que sont les trois axes du laboratoire, à savoir la question des collections. Alors il est très vite apparu, lorsqu'on a envisagé la tenue de ce séminaire, qu'il serait absurde d'en faire un séminaire entièrement clos sur les objets propres de chacun des chercheurs de l'équipe, étant donné que dans ce cas-là, on peut tourner en rond, on peut revenir à nos chers amours et nos vieilles amours. Pour moi, c'est un retour en arrière de 20 ans, lorsque je reviens sur les questions de collection, c'est ce que je faisais en recherche il y a une vingtaine d'années, j'y suis revenu depuis 5-6 ans autour de la question de la République des lettres, donc je rajeunis, j'en suis très heureux, donc l'idée était d'ouvrir, en fait, dès le séminaire, dès le début du séminaire, à des compétences venues d'ailleurs, c'est-à-dire nos partenaires institutionnels dans le Labex Patrima, qui ont à la fois des objets spécifiques, qui ne sont peut-être pas forcément les nôtres, mais qui ont aussi des interrogations spécifiques, des méthodes, des compétences qui ne sont pas les nôtres. Je pense que le séminaire a non seulement disons, vocation à construire des nouvelles problématiques, mais aussi à confronter des méthodes. Il s'agit de penser les méthodes aussi bien que les objets. Car objet et méthode ne sont pas des choses qui sont disjointes, c'est souvent l'objet né de la méthode, et la méthode est adaptée bien sûr à l'objet. Et il ne faut pas tomber dans une illusion positiviste qui dirait que les objets sont là, tout construits, hein, qui sont là quelque part en terre pour les archéologues, quelque part dans les rayons bibliothèques pour les bibliothécaires et les historiens du livre, quelque part dans les archives pour les archivistes. L'objet devient visible parfois grâce à la méthode qu'on lui applique, et un objet qui est là depuis toujours, sous les yeux de tous, réapparaît totalement parce qu'on sait le regarder autrement. Et je crois que la méthode, de ce point de vue-là, est fondamentale. Je pense à la redécouverte, il y a justement une vingtaine d'années, des sermons de Saint-Augustin par notre collègue François de Hobeau, de l'école de hautes études. Ces sermons étaient bien dans un manuscrit médiéval que tout le monde connaissait, mais personne n'était allé voir les incipits. Et c'est de Hobeau qui, en regardant les incipits, s'est dit « mais ce sont des textes, ça me dit quelque chose ». Et ça faisait partie, en fait, des textes de Saint-Augustin qui figuraient dans la rétractature, dans la façon dont Saint-Augustin fait sa propre bibliographie. Il a donc découvert que ces textes qui n'avaient pas été lus, alors qu'ils étaient à la disposition de tout le monde, étaient cette série de sermons. Donc, redécouverte, c'était lors de la célébration de la grande édition d'Augustin par les bénédictins de Saint-Maur. Donc, c'était un centenaire qui a donné lieu donc, à la découverte de quelque chose que les Maurice n'avaient pas découvert. En plein XXe siècle, à la fin du XXe siècle, on a redécouvert une partie importante du corpus d'Augustin. Donc, c'est savoir regarder les choses qui sont déjà là, en quelque sorte, qui est aussi. Je pense une des méthodes fondamentales des chercheurs de nos disciplines respectives. Alors ce sont des objets spécifiques, mais aussi très divers, et je pense que nous verrons en confrontant nos points de vue, à savoir que la collection, c'est à la fois bien sûr la collection qui s'impose à notre esprit, c'est la collection muséographique, donc la peinture, la sculpture, bien sûr la collection de livres, la collection de manuscrits, mais il faut rappeler que l'époque moderne a été aussi une époque très férue de collections d'objets divers, d'objets curieux, curiosa, d'objets scientifiques et techniques, hein, quelqu'un comme Pérès, par exemple, qui pourrait être l'emblème du collectionneur de l'époque moderne, de la première modernité, quelqu'un qui allait des spécimens animaux aux manuscrits rares, aux tessons, aux médailles, à tout ce qui pouvait être glané à la fois par ce que nous appelons aujourd'hui les archéologues, mais aussi par les historiens des sciences, et il était même un opérateur de recherche très moderne, étant donné qu'il a décidé certains savants religieux qui partaient en Orient de faire des observations astronomiques, donc il a même collecté des données d'observations astronomiques pour ses propres recherches. Donc le mot collection chez Pérès est quasiment un terme qui est cette tautologie même du bonhomme qui était vraiment un animateur de la République des lettres et des sciences de ces premières décennies du XVIIe siècle. Alors, la question que nous voudrions poser, c'est la question du processus de patrimonialisation, c'est-à-dire comment est-ce que les intérêts des hommes de l'époque moderne, du Moyen-Âge et de l'époque moderne, ont conduit à construire des collections qui se sont avérées des collections patrimoniales, hein, à la fois la collection de livres dès le Moyen-Âge, mais aussi simplement la collection d'archives, qui est fondamentale et dont nous sommes aujourd'hui tributaires. La question des objets concrets qui ont été élus dans ces processus, j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure très rapidement sur les travaux d'un spécialiste de la collection qui est Jean Viardot, qui est un expert en livres anciens et qui a travaillé sur la notion de rareté, et il montre très bien dans l'histoire du livre et de l'édition comment est-ce que le livre est brutalement devenu matériel aux yeux de ceux qui le collectionnaient, et que du simple contenu textuel qui avait fait sa valeur pour les médiévaux et pour les humanistes, brutalement, il devenait objet d'intérêt intrinsèque en tant que tel, et devenait, selon l'expression de Christophe Pogan, un sémiophore, c'est-à-dire un objet collectionné pour lui-même, comme signifiant, comme signe de collection, et non pas seulement comme porteur, vecteur, transitif d'un savoir ou d'un texte. Enfin, ces objets, donc l'exemple du livre, nous rappelle que c'est la façon dont les objets deviennent des objets de collection, deviennent des objets qui vont être collectionnés pour eux-mêmes, donc processus qui correspond à cette matérialisation, si on peut dire, de l'objet. Du contenu immatériel du livre, on passe à l'intérêt pour le livre en tant qu'objet concret. Donc je pense que c'est un processus très intéressant à étudier. Je prends le livre comme exemple et je pense que ça pourrait être l'objet pour d'autres aspects, pour d'autres objets matériels. Enfin, bien sûr, l'articulation de tous ces phénomènes, de tous ces processus à une question plus large dans le cadre de l'histoire culturelle et de l'histoire intellectuelle. C'est-à-dire que pour beaucoup de collections, pour la légitimation, pour le caractère symbolique des collections, pourquoi sert une collection? Pourquoi est-ce qu'un mécène collectionne? Rôle d'histoire de l'art. Pourquoi est-ce que un Jacques Auguste de Toute accumule cette vaste bibliothèque? Pourquoi est-ce que Pérès, somme toute, accumule dans sa demeure de Maître-Gentier en Provence toutes ses raretés, toutes ses curiosités? Quelle est la fonction culturelle, au sens large, de ces processus, de ces collections? Alors voilà l'idée générale, ce sont les idées qu'on a un peu lancées en discutant de ce projet de séminaire. Alors pour l'instant, je rappelle que le planning envisagé, c'est la séance d'aujourd'hui, qui sera une séance inaugurale qui posera quelques jalons et qui n'est en fait qu'une incitation à poursuivre et à poser peut-être d'autres questions plus précises et moins vagues que celles que j'ai évoquées ici. Alors aujourd'hui, je prendrai la parole après Delphine Carangeau qui nous parlera des collections de peinture à l'époque moderne en Europe et qui fera donc un état des lieux de la recherche en histoire et histoire de l'art. Donc je reviendrai sur la question des collections de livres. Et alors la prochaine séance, ce serait donc jeudi 12 février, dans le même lieu, dans 2015. Donc il sera une séance dont la question centrale, ce que nous voulions évoquer, ce sera la question des sources. C'est-à-dire comment est-ce comment peut-on faire le catalogue, quelles sont les sources en fait qui nous permettent d'étudier les collections. Quelles sont les sources, spécificités, sources, différenciation. Donc là, nous sommes, c'est encore ouvert, il n'y a pas de programme arrêté, mais c'est un peu sur cette question que nous restons sur notre propos. Et enfin, bon, une troisième séance pour cette année, j'espère qu'il y en aura un peu plus l'an prochain, mais là, nous étions censés commencer seulement au seuil de 2015, donc nous sommes déjà en cours d'année. Donc la prochaine séance, ce serait le 2 avril 2015, nous sommes convenus avec Philippe Dillmann, qui avait proposé quelques dates et une pension qu'un jeudi matin, parce que nous avons un jeudi matin, donc ça pourrait très bien faire l'affaire. Alors là, je vous laisse peut-être dire sur quel serait l'objet exact, enfin, vers quoi vous voudriez proposer la réflexion.
Oui, voilà, l'idée c'est de vous présenter une démarche interdisciplinaire intégrant à la fois des analyses sur les collections pour comprendre le. L'appréhension d'un matériau, alors en l'occurrence les matériaux ferreux, au travers des sociétés. Alors pour ça, on va aller regarder la période médiévale et essayer de voir les différents types de sources qui nous permettent de comprendre les évolutions techniques. Et parmi ces sources, il y a bien évidemment certaines collections. On peut penser aux bombardes qui sont exposées au musée des Invalides. On a également des collections de masses d'armes, d'armures, qui sont là encore, toutes les idées que vous avez évoquées, hein, qui peuvent être soit faites à partir d'objets qui ont réellement servi, mais également des objets d'apparat, etc. Et voir comment l'analyse de la matière peut donner des indices sur l'appréhension de cette collection. C'est un peu une autre façon de regarder l'objet collectionné, et qui va nous donner, alors peut-être pas des indices sur la raison de la collection, mais sur la nature de l'objet collectionné. C'est intéressant.
La nature intrinsèque est très importante. Je pense que votre approche est en effet très féconde sur ce type de questions. Alors, je pense en fait une présentation qui ne demande pas vraiment de questions, peut-être après plutôt des suggestions pour la suite. Et je vous propose donc d'écouter tout de suite notre collègue et néanmoins ami Delphine Carangeau, qui va donc nous faire entrer dans le monde mystérieux des collections d'art.